présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La nuit de la Saint-Sylvestre a été marquée par des violences urbaines à Strasbourg. Plus de 200 voitures incendiées, précision dans un instant d'Olivier Vogel. Carlos Ghosn a pu fuir la justice japonaise en trouvant refuge au Liban. L'ancien patron de Renault-Nissan pourra-t-il échapper de la même façon aux enquêtes qui le visent en France? Nous ferons le point avec Florence Turm. L'Australie est mobilisée pour sauver les milliers de personnes bloquées par les incendies. Elles ont dû se réfugier dans des villes du littoral où elles ont passé la nuit du réveillon. Et puis la vape est-elle un bon moyen pour se libérer du tabac? Oui, nous expliquera Tara Schlegel, à condition de prendre certaines précautions. Plus de 200 voitures ont été incendiées pendant la nuit à Strasbourg. C'est le double de l'année dernière et ce malgré les précautions prises par la mairie. Ces troubles font suite à un mois agité sur Strasbourg avec déjà des voitures et des poubelles incendiées. Pompiers et policiers avaient même été visés par des tirs d'artifice. Les précisions d'Olivier Vogel de France Bleu Alsace.
Avec plus de 200 voitures incendiées dans la nuit, le double de l'an dernier, Strasbourg est revenue au niveau record qu'elle connaissait il y a une vingtaine d'années. La nouveauté, c'est que les incendiaires sont de plus en plus jeunes, une dizaine d'années à peine pour certains interpellés, et agissent avec méthode. Sur différents parkings, les véhicules ont été incendiés les uns après les autres. À plusieurs reprises, des policiers ont été visés par des tirs tendus de fusées et autres mortiers. 7 fonctionnaires ont été légèrement blessés. On a même frôlé le drame dans le quartier de Cronenbourg où les pompiers ont été attirés dans un guet-apens. Des individus ont attaqué leur fourgon pour tenter de les faire sortir. Les soldats du feu ont essuyé des coups et alors qu'ils manœuvraient pour repartir, leur camion a roulé au-dessus de l'un des individus tombés à terre qui est passé entre les roues du véhicule sans être blessé.
Olivier Vogel à Strasbourg. Et pendant cette nuit de la Saint-Sylvestre, les pétards ont fait un mort et 50 blessés, dont 20 mineurs dans le Bas-Rhin. La plus jeune victime a seulement 4 ans. Ces pétards sont souvent achetés en Allemagne où la législation sur les engins pyrotechniques est plus libérale. Policiers et douaniers avaient d'ailleurs mené des contrôles à la frontière franco-allemande pour faire respecter l'interdiction d'importer des pétards d'Allemagne, ce qui avait permis de saisir plus de 400 kilos de marchandises ces derniers jours. Au lendemain des vœux présidentiels, le secrétaire général de la CGT appelle tous les Français à se mettre en grève. Puisqu'Emmanuel Macron n'a pas infléchi sa position sur le projet de réforme des retraites, il faut que le signal d'alarme soit plus fort, estime Philippe Martinez. Hier soir, le chef de l'État a affiché sa détermination à rester un président réformateur et toujours en marche. Il a demandé au gouvernement de trouver la voie d'un compromis rapide avec les syndicats. Le président, qui s'est aussi exprimé sur l'état de la planète, Anne Fauquemberg, il a promis que l'année 2020 serait celle d'un nouveau modèle pour l'écologie, Anne.
Oui, et cette séquence sur l'écologie, elle a duré 2 minutes sur les 18 de l'allocution présidentielle d'hier soir. Emmanuel Macron a rappelé certains de ses engagements, notamment la fermeture des 4 dernières centrales à charbon d'ici 2022, l'arrêt des nouveaux forages. Et un peu plus d'un an après la crise des Gilets jaunes, il a vanté sa méthode de démocratie participative.
J'attends beaucoup des propositions que préparent 150 de nos compatriotes qui se sont engagés dans la Convention citoyenne et travaillent depuis plusieurs semaines d'arrache-pied. Il nous reviendra, au printemps prochain, d'affirmer des choix nouveaux et forts, une stratégie sur plusieurs années pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ainsi lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi pour œuvrer en faveur de la biodiversité.
Emmanuel Macron, qui a également salué l'engagement de la jeunesse sur ces sujets, mais aussi celle de nombreux Français à l'avant-garde des bonnes pratiques au quotidien, ce qui a fait réagir le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou.
Très concrètement, ça veut dire que la population a pris la mesure de l'exigence en matière d'écologie et attend des politiques publiques, et le gouvernement attend. C'est fascinant de mesurer à quel point ce chef d'État est en retard sur son temps, en retard sur l'opinion publique.
Un président qui, sur ces sujets, apparaît surtout toujours aussi paradoxal, à la pointe pour placer la France dans le combat contre le réchauffement climatique au niveau international, mais qui peine, c'est vrai, à incarner ses discours au niveau national.
Anne Fauquemberg. La promotion du nouvel an de l'Ordre National de la Légion d'honneur a été publiée aujourd'hui au journal officiel et un nom a aussitôt fait bondir certains opposants à la réforme des retraites. Jean-François Cirelli est nommé officier de la Légion d'honneur sur le contingent du Premier ministre. L'ancien dirigeant de GDF Suez, puis d'Engie, préside actuellement la branche française de BlackRock, le plus important gestionnaire d'actifs et fonds de pension du monde. Un grand patron que la gauche soupçonne d'être à la manœuvre sur la réforme des retraites. Écoutez Thomas Porte, le responsable national des cheminots pour le Parti communiste français.
Un sentiment quand même un peu de, d'incrédulité, puisque ça paraît tellement gros qu'on se dit c'est pas possible, alors qu'on a une mobilisation sociale qui est historique, on a des gens qui sont en grève permanente, et on nous explique à longueur de journée que non, ce n'est pas un système pour permettre les retraites par capitalisation, non, c'est pour l'intérêt général, non, les pensions vont pas baisser, et le jour de la nouvelle année, on voit cette mobilisation-là, donc c'est vraiment, en réalité, ils avancent même plus masqués, ils affichent au grand jour leurs intérêts de classe, je dirais, et on voit bien que, les amis qui servent aujourd'hui Emmanuel Macron sont récompensés à tous les niveaux et sont servis quelque part sur un plateau d'argent, puisqu'on leur offre le pouvoir à la fois de mettre la main financièrement sur notre système de retraite, et en plus on leur offre des distinctions au niveau de l'État de très haut niveau. C'est quelque part des cadeaux entre amis pour service rendu, et c'est toujours ce petit monde de la finance qui aujourd'hui a pris le pas sur l'intérêt général. Vous doutez bien que la colère, elle est terrible. Il y a un sentiment de mépris. Et puis, je crois que ça renforce la détermination de celles et ceux qui sont dans la lutte. Et je crois de celles et ceux qui aussi n'étaient pas encore dans la lutte et qui se disent que finalement, avec ce gouvernement, c'est tout simplement pas possible.
Thomas Porte du PCF, joint par Rosalie Lafarge. Également paru au journal officiel aujourd'hui, 3 décrets pour encadrer l'ouverture de la fonction publique à des non-fonctionnaires et l'expérimentation de ruptures conventionnelles. Prévue par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la rupture conventionnelle pour les agents de la fonction publique va d'abord être expérimentée pendant 6 ans. L'administration pourra donc se séparer, sous certaines conditions, de ces fonctionnaires qui perdront ainsi leur statut. Une façon, selon les législateurs, de donner plus de souplesse à l'administration. Les syndicats, eux, y voient une autre façon de diminuer le nombre de fonctionnaires, Anne-Laure Choin.
En tout cas, c'est une remise en cause, certes expérimentale, de l'un des principes fondamentaux du statut de fonctionnaire, l'emploi à vie. Elle concerne les 3 versants de la fonction publique, d'État, hospitalière et territoriale, et pourra s'appliquer également aux contractuels de cette même fonction publique. Seuls en seront exemptés les fonctionnaires stagiaires, les détachés sur contrat et ceux ayant acquis des droits à une retraite à taux plein. Pour les autres, si un accord de rupture est trouvé, ils perdront leur qualité de fonctionnaire. Un filet de sécurité est prévu pour les volontaires qui souhaiteraient partir dans le privé, une indemnité équivalent à 2 ans de salaire. La possibilité également, pendant 1 an, de revenir dans la fonction publique. Et pour éviter les effets d'aubaine, tout agent ayant quitté ses fonctions et qui serait recruté à nouveau comme fonctionnaire dans les 6 années qui suivent, devra rembourser cette indemnité. L'objectif de la réforme, c'est aussi celui-là, favoriser des carrières mixtes dans le public et dans le privé. La loi précise en effet que cet accord de rupture conventionnelle devra se faire avec le consentement des 2 parties, mais l'initiative pourra venir de l'autorité administrative, aussi bien que de l'agent lui-même. Une expérimentation que le gouvernement chiffrait à l'été dernier à 13 millions d'euros annuels, soit l'équivalent de 2000 agents par an qui utiliseraient cette nouvelle disposition, présentée donc par le gouvernement comme un instrument plus souple de gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Une atteinte au statut et un nouvel outil pour diminuer le nombre d'agents pour l'opposition de gauche. Une évaluation de cette expérimentation sera présentée au Parlement 1 an avant son terme.
Anne-Laure Choin. Nouvelle année est synonyme pour certains de bonnes résolutions. Elle tourne souvent autour de la santé, se mettre au sport, manger plus équilibré ou arrêter de fumer. Entre 2016 et 2018, 1,6 million de personnes sont parvenues à lâcher la cigarette et c'est une baisse record. Il y a de plus en plus d'aide au sevrage avec les patchs nicotinique, les gommes, le Champix et autres substituts validés par les autorités sanitaires. Et depuis quelques années, il y a la cigarette électronique. Santé publique France a calculé en juin dernier que 700 000 anciens fumeurs avaient arrêté grâce à la vape. Pourtant, la cigarette électronique a encore mauvaise presse et surtout depuis les morts survenues récemment aux États-Unis, vapoter au lieu de fumer, est-ce vraiment une bonne idée, Tara Schlegel?
Le tabac, même pour les vrais fumeurs, c'est souvent un esclavage. Comme le raconte Vanessa, autour d'un verre, c'était le 14 octobre dernier, au sommet de la vape, rencontre financée par l'industrie de la cigarette électronique et une association de vapoteurs.
Moi, c'était 5 paquets d'avance. Si je n'avais pas 5 paquets d'avance, c'était une angoisse. Donc je partais acheter une cartouche si je n'avais pas 5 paquets d'avance. Et chaque chose, chaque moment de la vie, c'est régi par la condition qu'il faut qu'il y ait la clope avec.
La catastrophe absolue en France, c'est que 80% des fumeurs qui veulent s'arrêter sont abandonnés par les médecins, les soignants de tout type et se traitent tout seuls.
Le pneumologue Bertrand Dotzenberg, invité au sommet de la vape.
le tabagisme, dépendance tabagique, c'est une maladie qui est associée à une mortalité de 50%. Est-ce que vous connaissez une autre maladie associée à une mortalité de 50% qui est le plus souvent acquise dans l'enfance, donc une maladie pédiatrique, que le corps médical, de façon générale, les services de santé, abandonnent en disant « débrouillez-vous tout seul, je ne sais pas faire ». Pour moi, c'est un scandale absolu. Alors, chez les gens qui n'ont pas d'aide médicale, la VAP est de très loin le produit le plus utilisé, parce que c'est assez simple, on le prend, puis il y a des copains qui vous expliquent comment faire. Après, si on va voir un médecin pour arrêter de fumer ou un tabacologue comme moi, j'utilise la vape, mais pas comme seul produit. Moi, tous les gens que je vois, c'est des gros fumeurs. Ils se retrouvent avec un patch de patch ou de la varenicline du Champix. Et ils ont en plus la vape comme un substitut oral pour compléter, pour le confort, pour que la substitution qu'ils ont en nicotine soit parfaite et soit agréable.
Autrement dit, bien dosé, l'apport en nicotine permet de se passer vraiment de tabac. Si le fumeur a encore besoin d'en allumer une, c'est qu'il doit augmenter son apport. Malheureusement, selon un sondage BVA, 80% des Français pensent que la nicotine est cancérigène. Or, c'est faux. Ce qui est nocif dans la cigarette, c'est la combustion du tabac, le fait de le brûler. Ce qu'on évite justement avec le vapotage, car les produits sont chauffés comme de l'eau qu'on ferait bouillir. Il est donc incontestable, même pour le cardiologue Daniel Thomas, qui lui n'était pas invité au sommet de la vape, que l'e-cigarette est moins dangereuse que le tabac. Néanmoins, est-elle plus intéressante que les patchs et autres gommes ?
Il faut qu'on démontre de façon formelle que c'est aussi efficace, voire plus efficace peut-être, que ces formes connues et validées de substitution nicotinique. Et pourquoi c'est important de savoir cela? C'est parce que, comme c'est un produit qui est une voie d'absorption particulière, qui fait qu'on va mettre au fond des alvéoles pulmonaires du propylène glycol ou de la glycérine, qui est un produit qu'on va vaporiser par le chauffage, on ne sait pas ce que ça donne à très long terme sur des poumons.
C'est donc un outil à prendre avec précaution. Il faut le déconseiller formellement aux non-fumeurs et s'en séparer dès que le sevrage a réussi. Il faut aussi se garder de vapeaux fumés, même si on se limite à quelques cigarettes.
Le fumeur de 3 cigarettes par jour pendant 30 ans peut très bien faire un cancer du poumon, à peu près au même niveau de risque qu'un fumeur qui a beaucoup plus fumé. C'est une question de durée d'exposition des cellules bronchiques.
Arrêter de fumer grâce au vapotage est donc une vraie bonne résolution, à condition de ne pas cumuler les deux pratiques. Ajoutons qu'en France, les fabricants de e-liquides sont très surveillés, ils respectent des normes AFNOR vraiment strictes. Aux États-Unis, les autorités viennent de confirmer que les personnes décédées avaient inhalé de l'acétate de vitamine E, utilisé comme diluant dans des liquides contenant du THC, le principe actif du cannabis. Autrement dit, ils avaient respiré des produits illicites, bien différents d'une e-cigarette classique.
Merci Tara, bonne année et bonne santé. Plus d'un million de manifestants pro-démocratie ont défilé à Hong Kong pour le nouvel an, c'est du moins ce qu'affirment les organisateurs. Des affrontements ont à nouveau opposé la police au plus dur des contestataires. Environ 400 manifestants ont été arrêtés pour rassemblement illicite et détention d'armes. Retour au calme, en revanche, à Bagdad, les manifestants irakiens pro-Iran ont quitté les abords de l'ambassade des États-Unis, estimant que leur message avait été entendu. Le Hashd al-Shaabi, une coalition de factions armées, a appelé ses combattants et partisans à relocaliser leur sit-in hors de la zone verte où siège l'ambassade américaine. Christian Chéneau.
La poussée de fièvre est retombée autour de l'ambassade américaine et la zone verte où elle se trouve est désormais bouclée à double tour. Les militants et les combattants des milices pro-iraniennes qui manifestaient encore ce matin à proximité du complexe diplomatique ont reçu l'ordre de leur chef de quitter les lieux. Pour ces milices populaires formées au moment de la lutte contre Daesh, cet épisode spectaculaire est une victoire, une démonstration de force contre les États-Unis et un défi au gouvernement irakien. Ces militants aguerris et politisés ont réussi à manifester sous les fenêtres de la plus grande ambassade américaine au monde, qui plus est dans le quartier le plus sécurisé de Bagdad. Le message est un avertissement sans frais aux États-Unis qui maintiennent plus de 5000 soldats sur le sol irakien et qui viennent d'annoncer des renforts militaires pour protéger l'ambassade. L'incident semble donc être clos pour le moment, car une ligne rouge a été franchie. Donald Trump a d'ailleurs fait passer un message de grande fermeté au Premier ministre irakien Adel Abdelmahdi lors d'un entretien téléphonique hier. Le président américain a également menacé l'Iran de payer le prix fort après l'attaque de l'ambassade. Même si Téhéran dément toute implication dans cet incident, l'Irak semble être devenu le champ de l'affrontement entre Iraniens et Américains. Et dans ce premier round de l'année, ce sont les pro-Iraniens qui ont marqué un point.
Les incendies qui sévissent depuis des mois en Australie ont détruit plus de 5 millions d'hectares, une surface aussi grande que le Danemark. Des centaines de maisons ont été détruites, on dénombre au moins 5 morts pour la seule journée d'hier. Mais les secours ont commencé à venir en aide aux milliers de personnes qui ont fui les incendies et se sont réfugiées dans des villes du littoral au Marwaman.
Des milliers de personnes, des vacanciers, mais également des locaux, ont passé le réveillon de la Saint-Sylvestre bloqué en bord de mer. Cet homme, interviewé par une télévision locale sur une plage menacée par les incendies, raconte le cauchemar de ces dernières heures. Nous étions 8 adultes et 9 enfants. Nous sommes venus ici parce que notre hébergement, la maison de mes beaux-parents, a brûlé ce matin. Nous sommes donc venus sur cette plage pour évacuer et nous rapprocher de l'air pur. Les routes coupées, les opérations de secours se déroulent dans des conditions épouvantables. Des hélicoptères et des avions militaires assurent des rotations et larguent des vivres à une population terrorisée. Cette femme explique que la situation est extrême et très effrayante. Certaines zones isolées sont totalement coupées du monde. Les autorités craignent qu'il faille des jours pour les atteindre, ce qui pourrait aggraver un bilan déjà très lourd.
Le Brésil, lui, a connu en 2019 3 importantes catastrophes écologiques. Un barrage minier s'est rompu en janvier, une marée noire pollue les plages depuis septembre et des incendies ont ravagé l'Amazonie en août. Une année noire, mais qui n'a rien changé au dédain du président pour la question écologique, Anne Vigna.
270 personnes ont perdu la vie après la rupture d'un barrage minier le 25 janvier dernier dans le Minas Gerais. Et le président Bolsonaro n'a presque jamais parlé de cette tragédie. Par contre, il s'est souvent exprimé sur les incendies en Amazonie pour accuser les ONG ou encore la presse brésilienne d'en être les responsables, comme le 29 août dernier.
La question des incendies en Amazonie, ce qu'on dit à l'étranger, c'est que la forêt est en flammes. Et bien sûr, on nous accuse. Ce n'est pas vrai, mais la presse brésilienne a alimenté ce feu et cela a été diffusé à l'étranger.
Mais pour les spécialistes de l'Amazonie, ce n'est nullement la presse brésilienne qui en est la responsable, sinon la politique du gouvernement, explique Clarissa Gondour, elle est chercheuse à l'Institut pour les politiques climatiques à Rio de Janeiro.
On sait que la surveillance par satellite et l'action de la police sont fondamentaux pour combattre la déforestation. Et ce qui s'est passé en 2019, c'est que tout ce système a été très fragilisé. Cette année, l'augmentation de la déforestation a été de 30%. Et l'an prochain, pour vous donner une idée, cela représente une régression d'une décennie, quand le Brésil avait réussi à réduire de près de 80% son taux de déforestation.
L'écologie sera sans doute la grande perdante du mandat de Bolsonaro au vu des résultats de sa première année. Et en particulier l'Amazonie, où après le soja, le président vient d'autoriser par décret la culture de canne à sucre.
Anne Vigna, à Rio de Janeiro. Carlos Ghosn aurait eu recours à une société de sécurité privée pour organiser sa fuite du Japon. C'est ce qu'ont déclaré des membres de son entourage à l'agence Reuters. L'ancien patron de Renault-Nissan a pu rejoindre le Liban, qui n'a aucune convention d'extradition avec le Japon. Il échappe ainsi aux 2 procès initialement prévus au printemps 2020 au Japon pour dissimulation de revenus et abus de confiance aggravé. Mais Carlos Ghosn est également visé par 2 enquêtes en France, Florence Turmes.
Oui, la première a débuté à la suite d'une plainte déposée par une actionnaire de Renault et transmise au parquet national financier. Depuis le mois d'octobre dernier, 3 juges parisiens sont en charge de cette instruction qui porte sur des soupçons d'abus de biens sociaux et de corruption active et passive. Elle concerne des contrats conclus par la filiale néerlandaise de Renault-Nissan avec la maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, en tant qu'avocate et avec le criminologue Alain Bauer. Près de 2 millions d'euros au total pour des prestations qui pourraient être fictives, ce que nient les 2 principaux intéressés. L'autre affaire est encore au stade de l'enquête préliminaire. Le parquet de Nanterre s'intéresse à 2 soirées organisées au château de Versailles. L'une en 2014, l'autre en octobre 2016, à l'occasion du mariage de Carlos Ghosn et de l'anniversaire de sa seconde épouse. L'ancien PDG de Renault est soupçonné d'avoir utilisé à son seul profit la contrepartie d'une convention de mécénat signée avec le château, contrepartie évaluée à 50 000 euros. 2 enquêtes qui pourraient prospérer maintenant que Carlos Ghosn est réfugié à Beyrouth. La France et le Liban ont en effet signé une convention d'entraide judiciaire censée fluidifier les échanges entre les magistrats des 2 pays, les autoriser aussi à se déplacer pour procéder à des actes d'enquête et à des auditions. Cette convention ne permet pas pour autant l'extradition de Carlos Ghosn vers Paris, mais si ces enquêtes débouchent sur son renvoi devant un tribunal correctionnel, alors il pourrait être en théorie du moins, remis à la justice française le temps de son procès.
Merci Florence Turmet. L'un des avocats de Carlos Ghosn annonce ce soir que son client tiendra une conférence de presse le 8 janvier à Beyrouth. Demain jeudi, le temps sera très nuageux. Des pluies faibles toucheront Poitou-Charente et Pays de la Loire au lever du jour. Elles se déplaceront vers le centre et l'île de France avant d'atteindre le nord-est. Sur les Pyrénées et les Alpes, du soleil dès le matin. Les éclaircies gagneront ensuite une bonne moitié sud du pays. Les températures minimales seront comprises entre moins 4 et plus 8 degrés. Les maximales atteindront 3 à 12 du nord-est au sud, jusqu'à 17 sur le piémont pyrénéen. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun. Je vous retrouve à 19h tout de suite sur France Culture. C'est le temps du débat, Emmanuel Laurentin.